Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les 2 semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 41e épisode, je reçois Nathalie Parent, qui est psychologue spécialisée dans l'enfance, l'adolescence et la famille, et également auteure de nombreux livres, à la fois pour les adultes et pour les enfants. Avec elle, nous allons parler du Père Noël. Déjà, lors de la saison 1 de ce podcast, j'avais en tête cet épisode, mais je n'avais pas trouvé l'intervenant idéal. Je suis donc ravie de pouvoir vous proposer cet épisode sur ce personnage qui participe à la magie de Noël, mais qui nous fait aussi nous poser beaucoup de questions en tant que parents. Car si pour certains faire croire au Père Noël est une évidence, pour d'autres la question des mensonges qui peuvent l'accompagner les fait hésiter. Dans cet épisode, on aborde la notion d'imaginaire, intrinsèquement présente chez l'enfant, des limites et de la construction de l'histoire qui entoure le Père Noël. On parle également du choix de ne pas faire croire au Père Noël et de ce que cela peut impliquer dans une société où ce n'est pas la norme. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Madame Parent.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Ça me fait plaisir.
Avec vous, on va parler du Père Noël. Mais avant, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de qui vous êtes? Quel est votre métier, s'il vous plaît?
Oui, moi je suis psychologue. En fait, depuis 1999. Et puis, avant d'être psychologue, j'ai travaillé en réadaptation physique. Donc, j'ai une approche globale pour la santé, autant physique que psychologique. Et donc, par la suite, en devenant psychologue, ben, j'ai travaillé avec des enfants, des adolescents, des adultes, des couples, des familles. Alors, c'est ma spécialité, là, l'enfance et la famille. J'ai aussi écrit plusieurs livres là, qui s'adressent aux parents et aussi des petits livres qui s'adressent aux enfants dont on peut leur lire. Alors, en allant sur mon site web, natalieparentpsychologue.com, vous avez toute ma démarche aussi, là, tout mon cheminement depuis tout ce temps.
OK. Alors, la première question qui m'est venue quand j'ai préparé cet épisode par rapport au Père Noël, et je crois que c'est une question que se posent beaucoup de parents, c'est est-ce qu'il faut faire croire ou pas au Père Noël? Et est-ce que c'est vraiment un énorme mensonge de faire croire au Père Noël à nos enfants?
En fait... J'aime bien dire que c'est comme un doux mensonge, en ce sens que c'est plus, on s'adresse aux enfants qui sont déjà dans la pensée magique, donc dans l'imaginaire. Alors, d'introduire un personnage qui est le Père Noël dans ses fantaisies, dans cet imaginaire-là, ben c'est pas vraiment un mensonge dans le sens que c'est plutôt un quelque chose d'agréable qu'on va créer ensemble. Puis on sait qu'il va y avoir une fin à ça, hein? L'imaginaire va passer. Mais c'est un peu comme la fée des dents, comme Coco Lapin pour certains. Donc, c'est un peu faire partie d'une société, hein? La société, on le voit partout, le Père Noël. Alors, pourquoi pas embarquer dans cette magie-là de Noël avec le personnage du Père Noël qui, à mon avis, est important de le présenter comme étant une figure positive, hein, quelqu'un de bon.
Quelle est la limite entre la magie et le mensonge? Est-ce que jusqu'où on peut aller dans la magie et où est-ce qu'il faudrait s'arrêter dans l'idéal pour que les enfants, on n'aille pas trop loin dans cette histoire-là?
Ben, moi, j'aime bien mettre les bases, hein, dans le sens que on peut dire que le Père Noël, bon, c'est lui qui apporte les cadeaux. On peut aussi dire que certains cadeaux, que c'est nous, c'est les parents ou c'est grand-maman, grand-papa. Alors, c'est à nous à déterminer comme parents, là, qu'est-ce qu'on veut présenter, puis comment on veut l'amener. Par contre, j'aime bien partir des enfants pour voir comment ils imaginent ça. Comment ils imaginent que le Père Noël a apporté les cadeaux, par exemple. Bon, on n'a pas de cheminée. Même dans les films, hein, on voit tout plein de personnages de Père Noël qui font ça, qui arrivent par la cheminée, puis c'est magique. Bon, alors les enfants vont poser la question, nous, par où ils rentrent? Alors, bien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu imagines? Et puis là, des fois, on n'a même pas besoin de donner des réponses. On les laisse imaginer. Mais c'est sûr que s'ils deviennent angoissés, par exemple, et ils ont l'impression qu'ils pourraient être intrusifs à la maison, bien là, on pourrait dire qu'il entre, hein, on va essayer de le rassurer. Là, ça peut être, il entre juste parce que nous, on veut bien le laisser entrer. Hein? Si on ne voulait pas, il ne rentrerait pas, puis ça serait autrement. Donc, il faut trouver un moyen de rassurer l'enfant. Mais sinon, on le fait parler. Lui, qu'est-ce qu'il imagine? En plus, ça, c'est positif, hein, de le faire réfléchir, de le faire imaginer. C'est bon pour la santé psychologique.
Oui, donc finalement, quand il se pose des questions sur comment il rentre, comment il fait pour apporter les cadeaux, tout ça, ce que vous dites, c'est que c'est plus intéressant de construire cet imaginaire-là avec lui et en fonction de ce que lui, il a envie, plutôt que de lui apporter des réponses toutes faites.
Exactement. Hein, plutôt que nous arriver avec notre propre imaginaire, c'est pas ça qu'on veut. On veut davantage construire autour de ce que lui a le goût d'imaginer.
Les enfants, dans les études, on montre que jusqu'à un certain âge, ils font pas. Alors, ils ont une différence assez floue entre l'imaginaire et la réalité. À partir de quel âge cette différence, elle se fait?
Autour de 8 ans.
D'accord, donc c'est tard.
Oui, quand même. Ben, il y en a, c'est plus 7, mais autour de 7-8 ans, là, la pensée magique diminue pour laisser place à la pensée plus logique et rationnelle.
Et ça correspond à peu près à l'âge où les enfants, ils se disent « Non, mais en fait, cette histoire, j'y crois plus trop. »
Exactement. Ils entendent toutes sortes de choses avec les autres amis, avec les plus vieux aussi, puis ils vont dire des choses « Ouais, le Père Noël n'existe pas. » Donc, puis aussi, ils vont se questionner, ils vont se dire « Mais, hein, ils vont noter des incohérences. » Ils vont dire « Mais comment ça se fait que c'est à cette période-là qu'ils vont nous poser davantage de questions. »
Et justement, quand on est à cette période-là, alors en tant que parent, c'est assez difficile parce que il y a plusieurs choses qui se jouent. D'abord, des fois, on n'a pas envie que nos enfants ils basculent dans le monde des grands. Et donc, on a envie de faire un peu durer la magie. Et en même temps, on n'a pas envie de leur mentir parce que là, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Comment on fait pour gérer ça en tant que parent de cette histoire de deuil du Père Noël quelque part et de l'enfant qui grandit aussi avec ça, je pense?
Effectivement, c'est vrai qu'il y a... on a un deuil à vivre à cette période-là, un petit deuil hein, qui est comme une transition pour notre enfant. Puis lui aussi, il va avoir un deuil à vivre hein, de cette magie-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand on peut retourner la question à l'enfant, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que tu as entendu? Donc, on le fait parler autour de ça, on réfléchit avec lui. Puis quand on voit que vraiment, là, il est rendu à ne plus y croire, ben on peut lui dire, ben écoute, je pense que tu sais, tu as raison. Parce que, puis là, on va expliquer, hein, ben, le Père Noël, c'est comme quelque chose de magique. Hein, on aime ce mouvement de magie. Puis quand on était enfant, nous, on y a cru aussi. Puis là, maintenant, on dirait que tu es rendu dans la catégorie des gens un petit peu plus grands qui savent que ça n'existe pas, mais qui savent que dans notre cœur d'enfant, il existe. Hein? Cette magie-là, elle existe. Le Père Noël peut exister dans notre cœur d'enfant pour garder quelque chose de bon, en fait. Puis de dire, ben, avec les plus jeunes maintenant, hein, à toi de continuer cette magie-là avec nous.
Souvent, alors je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est une généralité, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour les grands frères et grandes sœurs quand il reste des petits, pour qui on peut faire vivre la magie, que quand c'est pour le dernier qui, finalement, ben, y a plus ce truc-là à faire vivre.
Effectivement. C'est vrai que le plus jeune n'a pas à... Il ne peut pas le continuer cette magie-là. Puis, c'est aussi peut-être un plus grand deuil pour nous comme parents quand c'est le dernier qui arrive à cette étape-là. Hein, on se dit, bon, ben là, c'est vrai qu'on est ailleurs.
C'est vrai que c'est un passage d'étape.
Vraiment.
Comment il... Alors, chez les enfants, j'imagine que c'est très variable en fonction de comment ils l'ont appris et de la manière dont ils le vivent. Mais certains enfants, j'imagine, en tout cas, moi, en tant qu'enfant, par exemple, j'ai été très en colère contre mes parents. Et à l'époque, j'avais dit, plus jamais, je ferai jamais croire à mes enfants que le Père Noël, il existe. C'est trop dur quand on apprend. Comment on gère ça quand nos enfants, ils vivent ça comme une vraie déception, qu'ils sont en colère contre nous aussi de leur avoir raconté cette histoire?
On va valider hein, la colère. C'est vrai que c'est fâchant de découvrir que c'est terminé, qu'on n'a peut-être pas dit la vérité, toute la vérité. Donc, on valide. Hein, on dit, c'est vrai que ça peut être enrageant. Puis ça peut être enrageant aussi d'être rendu à faire le deuil de ça. Donc, je pense qu'on va supporter. Je ne sais pas, dans votre histoire à vous, qu'est-ce qui a amené cette colère-là. Je sais qu'il y a des enfants pour qui ils vont avoir un réel sentiment de trahison. Puis, mais c'est basé aussi sur d'autres petites trahisons, d'autres événements qui ont pu être vécus comme une trahison chez l'enfant. Hein, on ne dit pas toute la vérité ou dans des familles où il y a des non-dits, des tabous, des cachettes ou... On se parle un peu en cachette. Donc, ces choses-là peuvent faire activer un sentiment de trahison puis être vraiment amené de la colère, une grande colère chez l'enfant ou de la tristesse ou une déprime aussi. On l'accompagne hein, dans le sens qu'on va valider, on va essayer de le faire parler aussi. Qu'est-ce qui te fâche là-dedans? Qu'est-ce qui est enrageant pour toi? Hein? Donc, on va le valider, mais aussi on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vit. Ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui va être rassurant pour l'enfant.
OK. Est-ce que, en fonction de l'âge auquel il découvre cette transition-là, est-ce que ça joue dans cette histoire de « je me sens trahi » ou finalement c'est assez normal? J'ai l'impression que si on le leur dit un peu plus tôt, vers 6-7 ans, ils ont moins ce sentiment de la trahison que si ils y ont cru jusqu'à 8, 9, 10 ans, où là, ils sont plus grands et où ils ont l'impression de plus tomber de l'armoire, j'allais dire, à ce moment-là.
Oui, je comprends. C'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose comme autour de 10 ans. Là, les enjeux sont différents face aux parents. Il y a déjà, à 8 ans, c'est plus le rationnel qui embarque, mais vers 10-11 ans, là, on est comme dans autre chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu plus de confrontation avec les parents. Donc, la colère peut être plus grande, effectivement, parce que, comment je dirais, c'est comme si l'enfant a déjà besoin là, de se décoller un peu plus du parent, de prendre une certaine distance. Puis, la façon de le faire, bien des fois, c'est d'être fâché après l'autre. Comme quand on se sépare de quelqu'un, si on se sépare en harmonie, ça va être difficile de se séparer. Hein? Mais si on se sépare en étant fâché, il y a plus fâché contre le conjoint, l'ex, là, ben c'est plus facile de se séparer.
D'accord, donc ça peut expliquer que les enfants, ils soient un peu en colère contre nous parce que bah, du coup, ça les aide aussi à lâcher cette histoire-là.
Exactement, de prendre leur distance.
OK. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils l'apprennent, par exemple, par les copains de l'école, ou il vaut mieux à un moment donné se dire, bon là, j'ai l'impression qu'ils en parlent beaucoup à l'école, je vais le lui dire de moi-même avant qu'il découvre tout par lui-même?
Moi, je dirais que moi, je préfère quand ça vient de l'enfant, là, quand il nous lance assez de questions ou qu'il nous lance assez d'indices pour dire, je pense que là, il est rendu là. Moi, je préfère partir de l'enfant plutôt que d'anticiper hein, ou de brusquer quelque chose où est-ce que l'enfant serait peut-être pas prêt à ça. Moi, j'ai vu un enfant là, se faire dire à l'école par plein d'enfants, « Mais tu sais, c'est pas vrai, le Père Noël, il n'existe pas, voyons. » Tous ses amis, puis là, il avait 11 ans, je pense. Et puis, arriver en séance et de me dire, « Mais tu sais, là, Nathalie, moi, là, j'y crois au Père Noël. Les autres, ils y croient pas, mais moi, je le sais qu'il existe. » Puis d'être convaincue. Puis quand on connaissait son histoire, on pouvait comprendre qu'il avait besoin de s'accrocher à une figure paternelle positive, vraiment.
OK, donc il vaut mieux les laisser aller jusqu'au bout de l'histoire et puis ça vient plus tard après.
Oui, ça vient quand c'est prêt, quand c'est mûr.
D'accord. À la période de Noël, on voit beaucoup de Père Noël, justement. On en voit parfois plusieurs dans la même journée, au supermarché, dans les spectacles, etc. D'abord, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants sur ces Père Noël-là? Est-ce qu'il faut leur dire, ben celui-là, c'est une représentation, c'est pour faire plaisir aux enfants? Ou est-ce qu'on leur dit, mais oui, bien sûr, c'est le Père Noël? Et la deuxième chose, c'est parfois les enfants en ont peur. Qu'est-ce qui fait que les enfants, ils ont peur de ces Pères Noël-là?
Ben oui, mais c'est vrai que c'est impressionnant hein, quand vous pensez à ça. C'est un gros personnage avec une grosse voix, des couleurs vives. Alors, chez les tout-petits, ça éveille justement c'est comme des sensations hein, visuelles, sonores, qui sont imposantes. Alors, ça peut faire peur. Puis c'est un personnage qui est vraiment différent de papa-maman. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on voit. C'est comme les mascottes. Des fois, ça peut faire peur aux enfants. Et en ce sens-là, je trouve que ça vaut la peine quand l'enfant a un peu peur, dépendamment de l'âge, là, mais pas à 2 ans et demi, mais un peu plus tard, d'arriver à faire la distinction justement entre les Pères Noël qu'on voit dans les centres commerciaux versus le Père Noël qui lui apporte les cadeaux, qui lui est dans la magie. Hein, faire la distinction. Puis on peut dire ce sont des personnages qui vont représenter, qui portent des costumes pour... c'est un monsieur qui est déguisé en costume, comme un peu à l'Halloween. Mais j'aime bien, moi, faire la distinction. Déjà, ça fait en sorte que c'est moins épeurant pour les enfants.
D'accord.
Puis les enfants, en ce sens-là, les enfants qui ont peur, puis à qui on apporte l'idée du déguisement, ben on peut l'aider aussi en se disant, ben veux-tu, on va t'acheter un costume de Père Noël, puis on va se déguiser. Hein? Donc, on peut l'aider un peu en ce sens-là, comme à apprivoiser cette crainte-là du Père Noël déguisé.
OK. Dans les familles qui ont décidé de ne pas faire croire au Père Noël à leurs enfants, est-ce que ça change quelque chose dans la construction de l'enfant ou pas du tout?
Je ne croirais pas. Je ne penserais pas que ça change quelque chose au niveau identitaire ou au niveau du développement de l'enfant. Dépendamment, si c'est que ça versus si c'est juste sur le Père Noël ou bien si c'est à d'autres niveaux, là. Mais sur certaines, dans un groupe d'enfants, pour avoir vu plusieurs groupes d'enfants, quand il y en a un à qui on dit qu'il ne faut pas y croire ou que soit qu'il n'existe pas ou carrément on ne fête pas Noël, mais ces enfants-là, ils se sentent exclus, ils se sentent rejetés. Moi, je trouve que ça, c'est une grande tristesse, là, hein? Plutôt qu'il est dans un groupe d'enfants, un groupe où est-ce qu'on y croit, ben pourquoi pas l'aider à soit faire la distinction ou dire, ben écoute, à la garderie, à la crèche, c'est possible pour toi de croire à ça. Chez nous, on y croit pas. Ben c'est comme ça, mais ça t'empêche pas d'avoir du plaisir avec les autres en tentant ou en faisant comme si tu y croyais.
D'accord, on peut leur expliquer qu'il y a une différence entre ce qui se passe avec les autres enfants et ce qui se passe chez nous.
Exactement.
J'ai une dernière question par rapport au Père Noël et en particulier aux cadeaux. Il y a encore dans beaucoup de familles un chantage aux cadeaux du Père Noël. Quel effet ça peut avoir de faire ce chantage-là sur les enfants? Qu'est-ce que ça engendre chez les enfants, ça?
Ben, ça, c'est un peu comme un mensonge, là. Hein? On fait croire que s'il ne fait pas comme il faut, il n'y en aura pas. Alors que ce n'est pas vrai. Il va en avoir pareil, hein, des cadeaux. Mais bon, ce que ça fait chez l'enfant, c'est qu'il finit par ne pas y croire, puis le chantage ne fonctionne pas. Et de toute façon, le chantage en tant que tel fonctionne plus ou moins. Hein? À court terme, peut-être, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Ça ne tient pas la route. Alors, si on est peut-être mieux de dire aux enfants d'utiliser d'autres stratégies éducatives que d'utiliser le Père Noël comme étant une menace ou les cadeaux comme étant un chantage. Moi, j'aime bien garder l'idée que pourquoi pas transmettre quelque chose de beau, de bon. Hein? Ce personnage-là pourrait représenter quelque chose de beau et de bon qui, lui, à long terme, l'enfant, quand il va arriver, il va faire la transition vers le 8-9 ans et ne plus y croire, bien, il va savoir, il va comme pouvoir intégrer ce côté bon-là en lui. Hein? Ça peut donner confiance en la vie, confiance dans quelque chose de bon qui peut arriver dans la vie. Donc, c'est symbolique, hein? C'est un personnage symbolique, mais qui peut nous aider, nous, à transmettre quelque chose de positif, de bon, de croire à quelque chose de bon plus tard.
OK. Oui, puis ça construit aussi la fête familiale où on se retrouve autour des cadeaux et tout ça.
Absolument. C'est vrai que c'est beaucoup plus large que juste le personnage en tant que tel. Hein. C'est la préparation à la fête. C'est le plaisir d'être ensemble, de partager quelque chose de commun ensemble.
OK, ça marche. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter?
Non, hein. Je pense qu'on a fait le tour aussi.
Bon, ben super. Ben merci beaucoup.
Ben ça a été un plaisir.
Cet épisode touche à sa fin. À vous maintenant de construire la magie de Noël avec vos enfants en fonction de vos envies, vos limites, mais surtout avec beaucoup d'amour. Pour retrouver les livres écrits par Nathalie Parent, rendez-vous sur son site internet nathalieparentpsychologue.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Et si vous êtes à la recherche de jeux, de jouets ou d'idées cadeaux en tout genre pour vos enfants, vous pouvez écouter l'épisode 15 que j'avais fait l'année dernière avec Magali, qui est psychomotricienne et qui nous avait donné des idées en fonction de l'âge des enfants. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.